Et cette première partie de culte ensemble à la gloire de notre Seigneur. Merci pour cette lecture, Lisa. Et voilà, nous avons déjà lu cette parabole ensemble pour d'autres raisons, pour introduire justement cet enseignement sur le jeune homme riche. Mais nous allons nous arrêter sur la fin de cette parabole. Jésus lui répondit : pourquoi m'appelle-t-il ? Enfin, je ne vais pas relire toute la parabole, mais donc les derniers versets. Et ceux qui l'écoutaient dirent : et qui peut être sauvé ? Jésus répondit : ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et en fait, le jeune homme riche est parti parce qu'il était riche. Imaginez cela possible : riche mais pas heureux. Sinon, pourquoi serait-il venu voir Jésus ? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Et Jésus lui montre qu'en fait, il n'est pas possible d'acheter son salut. Pourquoi n'a-t-il pas suivi Jésus ? Me suivrais-tu ou me suivras-tu ? Qui, moi ? Pas possible. Pas possible, Seigneur. Je ne me sens pas concerné. Peut-être je ne suis pas riche, mais je ne suis pas heureux quand même. Ah, quelle pagaille! Riche, pas heureux, pas riche, pas heureux. Il y a un problème. Pourquoi n'est-ce pas possible de suivre le Seigneur ou d'accepter le Seigneur? Parce que peut-être je me dis, je suis trop jeune, je veux profiter de la vie, je veux d'abord travailler, et puis peut-être quelque chose de plus subtil. Je ne suis pas assez bon pour être chrétien, parce qu'il faut sûrement être quelqu'un de bien. Personnellement, c'est ce que je pensais. Il fallait quelqu'un de bien pour devenir chrétien. Et puis aussi, je ne veux pas renoncer à certaines de mes habitudes. Peut-être que j'ai peur. Ça me fait peur de suivre le Seigneur. Peut-être que je suis trop timide, ou je suis timide tout simplement. Mais peut-être aussi parce que j'ai de la haine en moi, parce que j'ai de la colère, de la violence. Mille et une raisons. Si le Seigneur pose cette question, me suivrais-tu ? Et de faire comme le jeune homme riche, d'avoir les explications du Seigneur et de repartir, encore plus triste qu'avant. Souvenons-nous dans Matthieu 4, verset 18, quand Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu'il vit les pêcheurs, Pierre et André, il leur dit : venez avec moi, et vous ne pêcherez plus du poisson, mais vous serez pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et suivirent Jésus. Me suivrais-tu ? Ils l'ont fait, sans réfléchir. Et puis, quand Jésus vit Lévi, le publicain, assis au péage, il lui dit : suis-moi. Et laissant tout, il se leva et partit avec Jésus. Me suivrais-tu ? Il l'a suivi. Différentes conditions sociales, mais la même action, accepter de suivre Jésus. Mais alors ces gars-là, ils ne se sont pas posés de questions. Toi, suis-moi, et ils ont suivi Jésus. Et un jour, moi aussi, j'ai dit : ok, j'arrête de me poser des questions, et je dis : oui, Seigneur, je veux te suivre. Quelque chose a changé en moi, et quelque chose a changé en vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, quelque chose changera en vous. Soyez-en certains. J'avais une paix, une joie profonde que je n'avais pas avant. J'avais vraiment un sentiment de plénitude. Cette plénitude que n'avait pas le jeune homme riche. J'étais certain que Dieu m'aimait tel que j'étais, sans me poser de questions. Et ça m'a libéré. Dieu change même les timides, il change même ceux qui ont peur, les peureux. Un jour, le responsable de jeunes, groupe de jeunes que je fréquentais, m'a demandé de préparer une petite méditation pour le groupe. Panique à bord. Que faire? Que dire? Que penser? Comment réagir? Le Seigneur m'a conduit dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il est important, avant de préparer quelque chose, de prier pour la préparation. Et puis dans l'Apocalypse, il y avait le verset qui tombait en mille, qui dit ceci: est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es tiède? Ou est-ce que tu es bouillant? Alors là, on commence à se poser des questions. Et j'ai parlé de ça, j'ai discuté de ça avec le groupe de jeunes. Le Seigneur ne souhaite pas que nous ne soyons froids ni tièdes, mais il veut que nous soyons bouillants pour lui. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience du verre d'eau ou d'un autre liquide ou d'un autre mets? On fait qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Mais est-ce que tu as goûté? La semaine prochaine, nous allons partager quelques victuailles. Alors on peut, du regard, se dire qu'est-ce que ça doit être bon? Enfin, j'anticipe, hein, on se donne l'eau à la bouche. Hein. Mais comment valider ce sentiment? Ça doit être bon si je ne goûte pas. Ah, revenons à notre chemin. Est-ce que je peux dire qu'il est bon de suivre le Seigneur si je n'accepte pas de le suivre? Me suivrais-tu? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez fait ce pas avec le Seigneur? Quel était votre sentiment dans l'époque? Moi, j'aimerais vraiment qu'un jour on puisse avoir une rencontre un peu spéciale, parce que j'ai vraiment envie de vous connaître davantage. Donc là, c'est un message ouvert, hein, au responsable du groupe, afin que nous puissions partager notre témoignage ensemble. Voilà ce que j'étais, ce que je faisais, ce que je pensais au moment où le Seigneur m'a parlé, et comment il m'a parlé, et qu'est-ce qui s'est passé. Comment j'ai accepté? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui a fait que? Laissez-moi vous parler de celui qui est capable de bouleverser notre vie, de bouleverser nos habitudes, de bouleverser même notre façon de penser. Est-ce que pour ma vie, j'ai de l'espoir ou j'ai de l'espérance? Sur quoi je me base? On dit que l'espoir fait vivre, là, en cet instant. Mais l'espérance nous projette dans un avenir, dans une vie éternelle avec le Seigneur. L'espoir n'est qu'un sentiment humain précaire, sans avenir. Tandis que l'espérance, pour le chrétien, que Christ met dans son cœur par le Saint-Esprit, ne meurt pas. Ce n'est plus de l'espoir, c'est de l'espérance. Ce n'est plus un sentiment qui va s'arrêter, c'est un sentiment qui va durer. Alors me suivrais-tu pour vivre cette espérance, dit le Seigneur? Est-ce que tu souhaites te contenter de l'espoir, de la chance, ou de faire connaissance avec cette espérance que donne le Seigneur? Le secret, c'est naître de nouveau. Voilà ce changement, ce bouleversement en nous. Alors, vous ne partez pas, hein, il ne s'agit pas de formules magiques où je vais vous proposer à naître de nouveau. Hein, vous allez redevenir bébé et puis vous allez repartir. Ce n'est pas du tout cela. Hein. D'ailleurs, vous vous souvenez du personnage qui a été frappé par cette parole de Jésus, qu'il faut naître de nouveau? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Nico. Nicodème. Nicodème a dit, waouh, c'est profond comme pensée. Mais lui se disait, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère et puis refaire le même chemin? Effectivement, en partant de ce point de vue-là, ça a l'air assez compliqué. Ça se trouve dans Jean chapitre 3 et versets 1 à 6. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit, non, non. Non, parce que le corps n'est pas important pour le Seigneur. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors me suivrais-tu, Nicodème? Me suivrais-tu en sachant cela? Physiquement, tout compte fait, on est comme on est. Et certains acceptent leur état, d'autres plus difficilement. Hier, j'ai zappé une émission sur la chirurgie esthétique. Combien il y a de gens qui ne s'aiment pas tels qu'ils sont? Parce que on aimerait avoir des seins plus gros. Parce qu'on aimerait avoir une taille plus fine, plus mince. Parce que on voudrait paraître 10-15 ans de moins. Parce que comme on n'a plus beaucoup de cheveux, on voudrait en remettre. Non, j'accuse pas que les femmes, hein, aussi les hommes, de plus en plus d'hommes font de la chirurgie esthétique. Pour enlever le petit bourrelet qui est ici. Certains hommes se font poser des implants pour avoir plus de muscles. Enfin, pas plus de muscles, parce que c'est pas du muscle, hein. C'est que du silicone. L'apparence. On ne s'accepte pas tel que l'on est. On aimerait que cet espoir de rester jeune persiste. Mais non. Le compteur tourne pour tout le monde. Pourquoi est-il question de renaissance? Pour suivre Jésus, il faut renaître, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le cœur de l'homme et le prive de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception, personne ne peut se dire, moi, ça ne me concerne pas, j'allais dire, oui, je m'en fous. Je me sens pas concerné. Dieu, bon, oui. Certaines personnes vont jusqu'au bout de leurs pensées et n'accepteront jamais Dieu dans leur vie. Parce qu'elles refusent. Elles refusent cette idée. Elles refusent cette offre gratuite. Renaître de nouveau, c'est reconnaître son état de pécheur et demander pardon à Dieu, créateur du ciel, de la terre et de tout être vivant. Souverain et maître. Seigneur, je suis tel que je suis, je ne peux rien refaire, toi tu me connais. J'accepte que tu prennes ma vie en main. Et alors quand le Seigneur me dit, me suivrais-tu? Qu'est-ce que tu réponds? Au moment où le Seigneur te dit, me suivrais-tu? Moi, je me souviens clairement d'une période où le Seigneur m'a demandé une certaine chose. Clairement, le feras-tu? Et je ne l'ai pas faite. Et j'avoue, encore aujourd'hui, amèrement, je le regrette. Cela a pris du temps. Cela a pris certains autres événements, je vous en parlerai plus à l'occasion parce que là, je ne peux pas tout vous expliquer comme ça, mais c'est vrai, clairement, quand le Seigneur m'a dit « Me suivrais-tu sur ce point-là ?» Je n'ai pas dit oui au Seigneur. Je dis « Je ne m'en sens pas capable. » Notre chair humaine nous entraîne vers la perdition, vers la séparation avec Dieu, vers le péché, vers l'enfer. Et cela crée un manque. comme ce jeune homme qui avait tout, hein, apparemment, plus heureux, entre guillemets, là je fais le geste, mais il ne peut pas être enregistré, donc, hein, plus heureux que lui, ça ne devait pas être possible. On s'imagine tous, ah, si j'avais de l'argent, alors, franchement, j'aurais 365 jours de sourire sur les lèvres, ainsi de suite. Et en fait, on s'aperçoit que c'est faux, parce qu'il manque quelque chose. Il manque Dieu dans notre vie. Il manque cette acceptation, quand le Seigneur a dit « Me suivrais-tu ?» Ben, il manque ce pas. Et en plus, il a été déçu, le jeune homme riche, parce que peut-être qu'il s'attendait à ce que le Seigneur lui dise « Ben, tiens, donne-nous 100 millions d'euros et c'est bon, t'as ta place pour le paradis. » Mais Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, « C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. » Oui, Seigneur, j'accepte de te suivre. Ça, c'est un acte de foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don. Il vous donne la vie éternelle. Tu prends ou tu ne prends pas. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. À partir du moment où il n'y a rien à payer, personne ne peut dire « je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens ». Non. Le Seigneur dit « c'est pas ça, c'est pas une question d'argent ». Et dans Galates, au chapitre 5, au verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification uniquement dans la loi, comme le jeune homme riche. Vous êtes déchus de la grâce. » Parce que si vous croyez que tout se paye, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas des actes religieux, ce n'est pas une justice humaine, ce n'est pas l'observation seule des 10 commandements qui permettent d'accéder à Dieu. C'est la foi. C'est accepter de faire ce pas de la foi, de suivre Jésus. Nous avons maintenant l'assurance de la vie éternelle en Christ. 1 Jean chapitre 5 versets 12 et 13, « Celui qui a le Fils a la vie. » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, c'est de l'espoir ou c'est de l'espérance? C'est de la chance ou c'est de l'assurance? Et Dieu ajoute dans tout ça, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » Parce qu'on peut se dire aussi, tout à l'heure j'ai dit, oh, la peur. Oui, mais qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer après que j'aurai fait ce pas avec le Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais me retrouver déchu, exclu, paria? Non. Non. Moi, je ne le suis pas devenu, en tout cas, quand j'ai accepté Christ dans ma vie. Le Seigneur use de patience envers tout. Il y a un don à saisir, tu le prends ou tu ne le prends pas. Me suivrais-tu ou ne me suivrais-tu pas? C'est simple. C'est même tellement simple que beaucoup de personnes n'osent pas faire ce pas. Ce qui est formidable, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes expériences, mais nous aurons tous le même résultat. La vie éternelle en Christ, notre Sauveur et Seigneur. N'est-ce pas une belle promesse? N'est-ce pas une belle promesse? N'est-ce pas une merveilleuse espérance? Alors, me suivrais-tu? Me suivrais-tu? Est-ce que, je ne vais pas vous demander de lever la main, hein? Ce n'est pas le moment, c'est le lieu, mais c'est une décision qui vous revient. Est-ce que, en cet instant, si le Seigneur vous dit « Me suivrais-tu », qu'est-ce que vous allez lui répondre? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Et je nous pose la question aussi à nous qui sommes déjà engagés, si le Seigneur vous met sur le cœur quelque chose à faire, il vous dit « Sur ce point-là, me suivrais-tu » Est-ce que nous, chrétiens, nous le faisons? Nous acceptons? Que nous l'acceptions ou que nous ne l'acceptions pas, il y aura des conséquences. J'ai subi les conséquences de mon refus avec le Seigneur sur un certain point. Le Seigneur ne m'a pas déchu, mais il m'a montré que je l'avais blessé et que cette crainte que j'avais n'était pas justifiée. Mais aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est quand même parce que le Seigneur a continué à agir. Un autre moyen, mais il a continué à agir. Je dis merci Seigneur, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Alors si le Seigneur vous dit « Me suivrais-tu ?» Vous avez mille et une questions à vous lui poser ? Certes, c'est légitime. C'est légitime. Mais vous avez la possibilité de vous adresser clairement au Seigneur. Avec vos mots, comme à un père, comme à un fils, comme à un ami. Et là, le Seigneur me dit, alors, ok, je t'ai écouté, me suivrais-tu? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.